Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou à la réécoute sur franceinter.fr. Ce matin, nous recevons deux invités qui prétendent que la guerre entre les générations n'aura pas lieu dans notre société. Le sociologue Serge Guérin et le philosophe Pierre-Henri Tavoyot estiment que la lutte des classes ne laissera pas la place à la lutte des âges, notamment dans le monde du travail. Ils récusent l'idée que les rapports entre les générations seraient structurés selon une logique conflictuelle, estimant au contraire que les liens intergénérationnels sont une source de richesse économique, sociale, culturelle et spirituelle, des liens entre les âges bénéfiques pour tous. Nous verrons par exemple que la solidarité entre les générations, au-delà du cercle familial, n'est pas un vain mot dans notre pays et que les Français restent attachés à l'idée de partage et de transmission des savoirs et des expériences entre les âges. Faites-nous partager justement vos expériences de liens de solidarité entre les générations par courriel, grand bien vous fasse à radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Et puis dans quelques minutes, vous retrouverez la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté, parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler.
La révolte générationnelle de Daniel Balavoine en 1980 sur Antenne 2, la révolte d'un jeune contre monde jugé trop vieux. Bonjour Serge Guérin.
Bonjour Ali.
Sociologue spécialiste des enjeux du vieillissement et de la solidarité, vous siégez au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Bonjour Pierre-Henri Tavoyot.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, président du Collège de philosophie, enseignant à la Sorbonne, et vous publiez ensemble chez Kalman Levy « La guerre des générations aura-t-elle lieu ? De quelle guerre des générations parlez-vous ? »
Justement, de celle, on s'amuse toujours avec ça avec Pierre-Henri en disant on parle d'une guerre qui n'existe pas. Quand on cherche, il n'y a pas de barricade, il n'y a pas de bazooka, on voit assez rarement des jeunes qui vont attaquer des vieux, on voit encore moins d'ailleurs des vieux qui vont attaquer des jeunes, et que globalement, dans une société qui a beaucoup de violence, dans une société où il y a énormément d'opposition, bah, la guerre des générations, on a du mal à la trouver. Où sont les tranchées, en quelque sorte?
Mais c'est une guerre que nous prédisent de nombreux prophètes et futurologues, Pierre-Henri Tavoyot.
Mais oui, parce que quand on regarde la société, il y aurait de bonnes raisons. Quand on regarde le poids de la dette, on dit qu'une génération effectivement endettée, par exemple la France pour des années, la pollution, les dégradations de l'environnement, c'est-à-dire, d'une certaine façon c'est l'image d'une génération qui a tout mangé et qui laisse rien aux jeunes. Quand on regarde les jeunes, on se dit c'est quand même difficile aujourd'hui d'entrer dans l'emploi, dans la vie adulte. Quand on regarde les vieux, alors les autres vieux, les grands vieux, bah, ils sont abandonnés dans des mouroirs, etc. Donc on se dit oui, il y a de bonnes raisons, chaque génération est un peu victime de toutes les autres, mais justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en dépit de cette situation effectivement fâcheuse de chacune des générations, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Et au contraire, il y a un lien qui se retisse, qui se refabrique, qui se reconstitue et qui est, d'une certaine façon, une très très bonne nouvelle pour notre société.
Contrairement à une idée reçue, jeunes et vieux ne sont pas toujours opposés ou indifférents les uns aux autres, Serge Guérin ?
C'est vraiment ça, c'est la notion d'idée reçue. Il y a des représentations, on aime bien dire que ça va mal, et on aime bien depuis très très longtemps dire qu'il y a une guerre des générations. Daniel Balavoine le disait en 80, quoi, que déjà globalement il y a quelque chose. Finalement, la dernière fois il y a eu un peu une guerre des générations, c'est peut-être en 68, où il y avait des jeunes plutôt bien insérés, étudiants et tout ça, qui sont venus dire « vieux monde, on en a marre, quoi. Les vieux, on en a marre ». Mais sinon, quand on regarde les choses, c'est ça qui est... Est-ce que c'est étonnant ? En tout cas, la réalité, c'est que depuis le départ, c'est-à-dire la famille, généralement dans la famille, les parents sont plus âgés que les enfants. C'est une vieille histoire qui a fait ses preuves quand même depuis assez longtemps. Et du coup, il y a de fait déjà une première intergénération. Et à chaque fois, dans l'entreprise, en fin de compte, les salariés âgés, quand ils sont encore dans l'entreprise, parce que souvent on les met dehors, et les jeunes, quand ils ont réussi à rentrer dans l'entreprise, en fin de compte, entre eux, ça se passe plutôt bien, même très bien. Alors, chacun s'entraide.
Alors si je vous comprends bien, nous vivons une paix des âges plutôt qu'une lutte des âges, Pierre-Henri Tavoyot ?
Oui, c'est-à-dire que tous les signaux, si on les regarde un peu objectivement, sont plutôt au vert. C'est-à-dire, par exemple, en termes de transmission au sein de la famille, mais même aussi au sein de la société. En termes de transmission financière, par exemple, le chiffre de transmission financière, et qui n'est pas un chiffre simplement des âgés vers les jeunes, mais qui va aussi dans l'autre sens. Hein. Il y a un flux financier qui ne cesse d'augmenter. Donc la solidarité intrafamiliale augmente. augmente beaucoup. C'est pas simplement les finances, c'est aussi l'aide quotidienne. L'aide quotidienne, les grands-parents qui aident les parents à garder les enfants, c'est quelque chose qui, si on le chiffrait, serait considérable.
Juste pour aller dans le sens de Pierre-Henri, 23 millions d'heures par semaine des grands-parents vers les petits-enfants. Vous pouvez pas inventer 23 millions d'heures de crèches, de halte-garderie, ainsi de suite. Il y aurait pas ces grands-parents, par exemple. Comment on fait pour simplement accompagner les enfants?
J'entends tout ce que vous dites, mais est-ce que vous niez qu'il existe un racisme de l'âge, une certaine forme d'agisme dans nos sociétés, Pierre-Henri Tawayau?
Alors, faut bien définir, parce que agisme et jeunisme sont des termes qui sont un peu ambigus. C'est à la fois ceux qui valorisent l'âge ou ceux, au contraire, qui détestent l'âge. Donc, déjà, ça montre que c'est un peu compliqué. L'agisme, il y a effectivement une image qu'on est dans une société jeuniste et que l'âgisme est détestable, que l'âge est détestable. Mais en fait, quand on y regarde, là aussi, c'est une représentation superficielle. Si vous regardez le classement des personnalités les plus admirées des Français, de JDD fameux, c'est un bon indicateur, parce que ceux qu'on trouve en tête, en général, ce sont des retraités, tous.
C'est
le sportif. Le sportif ne vaut pas quand il est en activité, mais quand il est retraité, il vaut. Le président, alors quand il est en activité, on le déteste, mais dès qu'il devient à la retraite, alors là, il est immensément populaire, et de ce point de vue-là, Hollande a de beaux jours devant lui. Pendant très longtemps, ça a été Sœur Emmanuelle, l'abbé Pierre, ou Zinédine Zidane, mais qui n'était pas en activité. Donc, vous voyez, on a une image, en fait, de personnes de confiance, parce qu'elles font, elles nous inspirent confiance dans la mesure où elles sont plus en activité, plus dans le culte de la performance. Donc, ça va vraiment à rebours de l'image d'une société jeuniste.
Alors, quelques chiffres, les 65 ans et plus représentent 20% de la population française, selon l'INSEE. Et en 2050, selon les projections de l'INSEE, un habitant sur trois serait âgé de plus de 60 ans, avec une part des jeunes qui diminuerait. Serge Guérin.
Oui, c'est simplement aussi ce qui marque les choses. Peut-être vous souvenez-vous pas de votre nuit du 15 décembre 2015, Ali, vers 2h15 du matin. Non. À ce moment-là, pour la première fois en France, le nombre des plus de 60 ans a dépassé le nombre des moins de 20 ans. C'est-à-dire qu'on est dans une société, non pas qui vieillit, mais qui a pris de l'âge, ce qui est un petit peu différent.
Et donc, c'est quoi la différence?
La différence, c'est vieillir, c'est presque c'est subjectif, on va dire, c'est pas bien d'une certaine manière.
À 60 ans, on n'est pas vieux, on est plus vieux.
Prendre de l'âge, c'est simplement vivre plus longtemps. On est dans une société, la longévité. Quand je nais aujourd'hui, un enfant qui naît aujourd'hui, il a une immense chance de pouvoir peut-être vivre au-delà de 100 ans. D'ici à 2070, il y aura entre 250 000 et 500 000 plus de 100 ans. C'est-à-dire qu'il faut penser à la longévité, il faut penser le temps long.
Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Alors la paix des âges, vous l'avez constaté dans le formidable reportage qu'on entendra tout à l'heure entre une vieille dame et une jeune fille.
Oui, parce que la cohabitation entre seniors et jeunes, ça marche et ça s'appelle le logement intergénérationnel où en fait effectivement ce sont des mamies qui accueillent des étudiants contre un moyer modéré.
Et on écoutera ça tout à l'heure. Bonjour Noélie. Bonjour Noélie, bienvenue, vous habitez à Paris dans le 11e arrondissement.
Exactement.
Est-ce que j'ai le droit de donner votre âge?
Absolument.
90 ans.
Exactement.
Alors, que vous inspire notre thème du jour?
Le thème du jour, en fait, je l'ai légèrement détourné parce que ce qui me préoccupe, si on peut dire, étant donné que mon âge, je suis à peu près arrivée en fin de vie, c'est l'image que les jeunes ou les moins, même les gens de 40 ans, se font des vieux. On les représente toujours avec un bâton et ne pouvant pas marcher, et il faut les aider, et ceci et cela.
Et je sens que c'est pas le cas pour vous, Noélie.
Ne parlons pas des maisons de retraite, on les met au rebut et c'est terminé. Alors que personnellement, j'ai un ordinateur, j'ai un mobile, j'ai une tablette, je prends l'avion, etc.
Et Noélie, quels sont vos liens avec les générations plus jeunes?
Je m'entends très bien avec les jeunes.
Bon, ça se traduit comment?
Ça se traduit que l'on communique parfaitement bien.
Est-ce que vous avez un compte Facebook?
J'ai un compte Facebook, voilà. Oui.
Je n'en ai pas. Vous voyez, Noélie, vous êtes beaucoup plus avancée que moi, je n'ai pas de compte Facebook.
C'est pour ça que je vous dis, les vieux d'aujourd'hui ne sont pas les vieux dans le temps.
Merci beaucoup, Noélie, pour votre témoignage. Serge Guérin.
Elle résume très très bien. C'est-à-dire qu'on pense photo alors qu'il faudrait penser film. Les gens de 90 ans ou de 70 ans d'aujourd'hui ne ressemblent pas à leurs parents au même âge, il y a seulement 20 ans, 30 ans ou 40 ans. L'âge a rajeuni d'une certaine manière. Il faut donc rajeunir notre regard sur l'âge. Et si on rajeunit notre regard sur l'âge, si on comprend que l'âge est très divers, du coup, on voit bien que entre les générations, c'est plutôt une question sociale, c'est plutôt une question culturelle qu'une question d'âge.
Pierre-Henri Tawayau.
Il y a un autre mythe aussi, et là, merci du témoignage, parce que c'est le mythe de la fracture numérique. C'est-à-dire, grosso modo, on aurait les jeunes numériques et puis les vieux has-been. Mais en fait, c'est une erreur totale. La fracture numérique n'existe pas. C'est toutes les générations qui sont entrées dans le numérique, et nous passons, nous, d'un certain âge et les autres aussi, beaucoup de temps sur le numérique. Donc, il faut vraiment se méfier de cette idée de génération. D'ailleurs, c'est un acte marketing aujourd'hui. C'est chaque marché cherche la nouvelle génération, la petite tendance qui va permettre de vendre. Je crois que le phénomène générationnel, de ce point de vue-là, il faut être très prudent avec lui, notamment, on y reviendra, la génération Y.
Merci beaucoup, Noélie, de nous avoir appelé. Alors, faites-nous partager vos expériences de liens, de solidarité entre les générations. Qu'est-ce qui vous motive à resserrer les liens entre les âges? Grand bien vous fasse à radiofrance.com, 01 45 24 7000. Eliès et Colline attendent vos coups de fil. En attendant, il est temps de retrouver la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou et penser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Alors cette semaine, dans votre petite philo de la pub et des marques, vous vous demandez de quelle façon la pub et le marketing ont inventé le concept de génération à travers les générations X, Y, Z.
La cible jeune est très importante pour nos marques et pour ce faire, on est vraiment prêt à prendre des risques.
Ce sont des gens qui sont nés dans un monde de marketing et de communication. Donc ils en maîtrisent beaucoup plus que nous, plus vieux, les codes, les mécaniques, les ressorts, les discours.
Quel est le meilleur moyen de créer du lien chez les jeunes? C'est la vidéo.
Donc c'est une cible beaucoup plus exigeante et avec laquelle, je pense, le souci de transparence, d'honnêteté, de sincérité est bien plus fondamental.
Voilà, comme on l'a entendu dans ce petit reportage qui faisait intervenir donc des publicitaires et des experts du marketing, bah la question de la génération, ça inspire donc effectivement ces publicitaires et ces spécialistes du marketing. Tout ça pour une raison assez simple, on l'a entendu, c'est que les différences générationnelles entraînent des différences dans la façon de s'adresser aux gens pour leur vendre des produits. Voilà, tout le travail justement consiste à identifier des générations distinctes pour utiliser donc les bons codes de communication. C'est comme ça que les étiquettes de baby boom puis de papy boom, de génération X, Y, on en a parlé à l'instant, et puis maintenant aussi de génération Z, ont été reprises, parfois inventées, en tout cas extrêmement popularisées et utilisées par le marketing et la pub.
Alors c'est quoi une génération pour le marketing?
Une génération, on l'a entendu, c'est d'abord une cible. Voilà, elle se distingue par une classe d'âge. Ok, les baby-boomers sont nés par exemple entre 45 et 65, enfin 1945-1965. La génération X, elle, lui succède. Elle serait née entre 1965 et 1980 à peu près. La génération Y, elle, donc née à la fin des années 70 et puis le milieu des années 90. Et puis la génération Z, maintenant, celle qui est née entre le milieu des années 1995 et les années 2015. Alors bien sûr, on n'est pas à quelques années près, ce sont des fourchettes, comme on dit. Et puis les noms parfois diffèrent. La génération Y aussi, on l'appelle parfois millennial ou digital native, parce que ce sont eux qui ont eu entre 15 et 25 ans à l'arrivée du 21e siècle et à l'arrivée de la révolution numérique. Bon, au-delà des dates de naissance, ces générations, elles se distinguent donc aussi par un contexte historique, social et culturel dans lequel elles se forment. Ça donne donc des références communes et donc partagées à l'intérieur d'une même génération.
Et c'est censé, supposer, nous donner des attentes et des désirs communs.
Oui, c'est pour ça que le marketing et la publicité reprennent et utilisent ces concepts. Leur idée, c'est que notre appartenance générationnelle détermine nos représentations et nos désirs. Mais en fait, c'est là toute la difficulté de cet usage publicitaire du concept de génération. Ça pose la question, quelle influence, précisément, ma génération aurait-elle sur moi? Et si elle a une influence, ça voudrait dire que je ne m'appartiens pas tout à fait et qu'il y a en moi des goûts, un imaginaire et des motivations qui ne sont pas spécifiquement les miens. Alors c'est au fond l'idée que le sujet strictement individuel et autonome n'existe pas ou pas totalement et qu'il y a toujours du social et de l'historique en moi. Alors c'est en même temps l'hypothèse de base qui fait que Durkheim, par exemple, invente la sociologie moderne au début du XXe siècle comme cette science qui sera chargée justement d'explorer ce qu'il y a de social en nous.
Et du coup, si ces générations sont différentes, elles ne se comprennent pas toujours.
Oui, elles peuvent ne pas se comprendre toujours, ou en tout cas, on va en discuter. Et ça agaçait déjà Socrate et Platon, qui fustigeaient le goût du luxe et la paresse d'une certaine jeunesse athénienne aisée, dont le principal crime était de ne pas respecter les plus âgés. Alors, si l'on peut parler de conflit de générations, en tout cas poser la question, c'est que les générations se suivent, mais sans se succéder exactement. En fait, elles coexistent. Aujourd'hui, coexistent, par exemple, on l'a entendu, la génération dites silencieuses, c'est-à-dire celles d'avant-guerre, celles ensuite du baby-boom, et puis la X, la Y et la Z. Alors on parle de renouvellement des générations, et ce renouvellement est aussi une forme d'analogie avec le renouvellement biologique des cellules, par exemple. Le renouvellement des générations, c'est un peu le rythme vital des sociétés. C'est une manière de se faire se rencontrer le temps cyclique de la nature et puis le temps historique de l'homme. Alors au fond, à quoi elles servent toutes ces étiquettes générationnelles, hein, la X, la Y, la Z? Eh ben, ce sont bien sûr donc des étiquettes marketing, on l'aura compris, qui permettent de nous cibler davantage. Mais elles révèlent aussi que l'appartenance générationnelle est une bonne manière d'équilibrer notre individualisme contemporain, d'une part, et puis aussi notre confusion parfois face à l'histoire. En fait, l'individu n'est ni isolé ni perdu dans le cours des événements, parce que l'appartenance à une génération permet de nous rassurer, de nous reconnaître. Alors reste alors aussi à savoir et à explorer ces distinctions générationnelles pour ne pas justement que les différences deviennent des sources de conflits.
Serge Guérin, Pierre-Henri Tavoyot, votre regard sur ces appellations génération X, Y, Z, Pierre-Henri Tavoyot?
Ben voilà, sur la génération Y qui a été effectivement inventée il y a quelque temps, qui commence un peu à vieillir, on en a un très beau portrait chez Aristote. Voilà, dans la rhétorique d'Aristote, c'est le portrait parfait de la génération Y. Non, là il y a un problème de fond, c'est qu'on confond un phénomène générationnel avec un phénomène structurel. Et là, c'est une erreur, effectivement. Les marketeurs sont pas totalement responsables, parce qu'ils font ça pour faire du business. C'est leur boulot, donc c'est pas... Mais du point de vue de la description sociologique, il y a une erreur massive. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous assistons à un élargissement de la phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte. C'est ça le phénomène structurel. Donc ça dure plus longtemps, la jeunesse. Voilà. C'est ça le vrai phénomène. Et on appelle ça génération Y, alors qu'il faudrait tout simplement l'appeler jeunesse. Qu'il y ait des petits mouvements ponctuels avec des petits changements, oui. Mais de là à parler de génération, c'est évidemment, du point de vue du concept de génération, effectivement excessif.
Merci Thibaut de Saint-Maurice, la petite philo de la pub et des marques. C'est tous les jeudis dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par Alexa Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par Jérôme.
Bal de Bamako, bal de Bamako, bal de Bamako, j'étais dans la...
Comme un vertige sur la ville, moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, de voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mali des merveilles, le mali Dieu créa la flamme. Le mali danse dans mon âme.
On y soit qui mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mali danse, au son des balles de Bamako.
Moi le capitaine, tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite, il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément, vire-le, qu'on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible, aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Bye.
le duo M et Oxmo Puccino qui interprétait Bal de Bamako.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h27 et nos invités Serge Guérin et Pierre-Henri Tavoyot nous expliquent ce matin pourquoi la guerre entre les générations n'aura pas lieu. Bienvenue Jean-Pierre, vous appelez de Castanet-Tolosan en Haute-Garonne, bienvenue.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors vous avez 70 ans, vous êtes tout jeune et que vous inspire...
Un peu moins jeune, mais c'est formidable, je n'ai que 72 ans seulement.
Et que vous inspire notre sujet du jour?
Alors d'abord, bravo pour votre émission, c'est absolument incroyable. Elle devrait être remboursée par la Sécurité sociale.
Merci.
D'abord,
merci beaucoup.
Deuxièmement, moi c'est très simple. J'étais né pour être grand-père. À 14 ans, je voulais être grand-père, alors que je n'étais papa qu'à 22 ans. Donc j'ai créé, il y a à peu près 8 ans, l'école des grands-parents européens 31. Parce que j'étais obsédé par le lien entre les grands-parents, les enfants qui ont entre 25 et 50 ans, et les petits-enfants. Ça a duré combien ? 5-6 ans, c'était une merveille, mais ça n'était pas suffisant. Alors j'ai créé un atelier pour les retraités. Mais là, je me suis amusé avec des vieux. Et alors je me suis dit que le mieux, c'était quoi ? Depuis Aristote ? Eh bien, c'est le théâtre. Donc j'ai rejoint quelques ateliers théâtre, avec des gens qui avaient minimum 18 ans. Je suis le plus vieux, mais je n'ai que 72 ans, c'est une merveille. Jamais, Ali, je n'étais été aussi heureux que depuis que je suis dans des ateliers théâtre. Voilà.
En tout cas, ça se sent dans votre voix, Jean-Pierre. Vous avez l'air très épanoui. Serge Guérin.
Ah bah, tout est dit. C'est-à-dire, d'abord, la notion de plaisir, plaisir de vivre.
Ça se sent.
Ça se sent, et après tout, c'est ça. Les projets. L'âge. Mon âge, finalement, c'est mon âge des projets. Et puis, c'est aussi la construction. Je vais dans des lieux. Cette personne-là, elle a 72 ans, il y a des moments où elle est avec des gens qui lui ressemblent, qui ont cet âge-là. Puis quand elle est au théâtre, elle est avec des gens de tous les âges. Selon l'endroit où je suis, je ne suis pas avec les mêmes personnes. Cette non-guerre des générations, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, on se mélange à certains moments, à d'autres moins, ainsi de suite. Il n'y a pas d'obligation, il y a plein de passerelles simplement, et du plaisir d'être ensemble et de construire quelque chose. Ce n'est pas juste là, statique, j'attends, je crée quelque chose avec ces personnes. Et chacun apporte à l'autre sa dynamique, son histoire, sa transmission. Et les jeunes transmettent aussi des choses, parce que la manière de jouer au théâtre, des et tout ça, et cette personne transmet d'autres choses. C'est bien autour de ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est une notion de réciprocité.
Je vous souhaite bon vent, Jean-Pierre, à Castanet-Tolosan, à très bientôt. Alors, vous rappelez dans votre ouvrage que l'allongement de la durée de vie est à la fois une opportunité économique, mais aussi un formidable levier de lien social. Par exemple, sans les retraités, notre tissu associatif s'écroulerait. Pierre-Henri Tavoyot, Serge Guérin.
Oui, alors, pour être très clair, 80% des bénévoles actifs du monde associatif, je dirais, hormis peut-être les associations de parents d'élèves, où c'est moins net. Mais sinon, les autres, ce sont des seniors, ce sont des retraités. Sans les retraités, le tissu associatif s'écroule. C'est-à-dire que quand on parle d'inactifs pour définir les retraités, c'est totalement idiot. Ce sont des actifs sociaux. Et finalement, toute une partie de l'activité aujourd'hui ne passe pas du tout par l'activité traditionnelle autour du salariat ou l'activité professionnelle, c'est autre chose. Il y a des étudiants qui font du bénévolat, il y a les services civiques, il y a les retraités, il y a d'autres personnes encore. Et tout ça, ça contribue très fortement. Il y a les aidants, les gens qui accompagnent d'autres personnes qui sont dans des conditions extrêmement dures. Si on payait les aidants, il faudrait mettre sur la table 164 milliards d'euros. Il faudrait doubler tous les impôts. Vous me direz, ça a déjà été fait, ben, il faut recommencer. Donc voilà, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là contribue très directement à faire tenir le pays.
Alors Antoine Lire, bonjour. Vous avez constaté dans votre reportage une belle solidarité entre générations.
Oui, ça s'appelle le logement intergénérationnel. Alors c'est une idée simple et utile. Une personne âgée vivant mal sa solitude accueille un étudiant qui cherche à se loger sans se ruiner. Alors c'est une formule gagnant-gagnant, hein, si vous voulez. Le concept est né en Espagne durant la crise économique pour répondre à la pénurie de logements. En France, il existe plusieurs organismes qui mettent en relation des personnes âgées et des jeunes. L'association Ensemble Deux Générations a par exemple permis à Giovanna, étudiante italienne, d'être accueillie par Elisabeth depuis 5 ans. Cette mamie héberge régulièrement des jeunes dans son grand appartement à Versailles.
Voilà, allez, on va préparer un café. Giovanna prend des cafés courts et forts et moins longs et légers.
Vous êtes comme un petit couple.
C'est un binôme, il faut appeler binôme, faut pas mélanger.
Vous, Elisabeth, pourquoi vous avez accepté de recevoir des étudiantes chez vous ?
Après le décès de mon mari, je ne supportais pas la solitude de fin de journée. Ça, c'était épouvantable. Le calme de l'appartement, j'ai beau mettre la radio, la télé, il n'y a pas d'échange. Et moi, j'ai besoin d'échange. Et j'en ai même parlé à un moment donné à mon médecin traitant qui m'a dit « Ah, mais c'est formidable, vous ne parlez plus à vos murs !» Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est exactement ça. J'avais quelqu'un avec qui échanger. Ça c'est merveilleux.
Vous, Giovanna, avant de vivre avec Elisabeth, vous étiez où l'année dernière?
Toujours à Versailles, dans une chambre chez l'habitant. On n'avait pas vraiment de contact avec les propriétaires.
Vous payez combien, par exemple, ici?
330 €.
Et l'année dernière?
450.
D'accord, il y a une différence de 150 €, c'est pas négligeable.
Mais le but à soi, ce n'est pas seulement d'avoir un logement convenable et un prix intéressant, mais c'est vraiment d'associer deux générations pour qu'elles se rencontrent. C'est aussi rassurant pour le senior que pour l'étudiant.
Les petites cuillères, elles sont en bas à gauche. Hein.
Ah oui. Vous voulez une cuillère, Elisabeth?
Non, sans sucre. Et puis elles m'apportent toutes quelque chose, elles m'ont toutes appris quelque chose et c'est très très bien comme ça.
Par exemple, Giovanna vous a appris quoi?
Alors Giovanna, oh, je vis au rythme de l'Italie cette année, alors on mange italien, on mange franco-italien.
Oui, c'est vrai.
Je vais me permettre de vous demander, Vous avez quel âge, Elisabeth?
Ah, j'ai 78 ans.
Et vous, Giovanna?
28.
Donc il y a...
50 ans d'écart, un demi-siècle d'écart entre nous deux. Oui.
Est-ce que ça génère pas un conflit, une guerre de générations, ce demi-siècle d'écart?
Non, parce que moi je ne me verrais pas vivre avec quelqu'un de mon âge qui me raconterait tous les jours ce que je ressens moi, ça ne m'apporte rien. Ce sont les différences qui enrichissent, pas les copier-coller.
Si on prend les nouvelles technologies... Je ne sais pas si vous, Giovanna, vous êtes très connectée, très smartphone, internet. Je ne sais pas si c'est votre cas, Elisabeth.
Mais comme je ne sais pas faire, eh bien, Giovanna me dépanne. Voilà l'avantage d'avoir un jeune chez soi.
Je vous montre ma chambre. Donc là, on est dans le couloir. Ici, c'est ma salle d'eau.
À vous, rien qu'à vous?
Rien qu'à moi, oui. Et ça, c'est ma chambre.
Ouais, c'est une belle chambre. Hein.
J'ai un lit, j'ai une table de nuit...
Vous avez aussi un bureau en plus?
Oui.
Il y a combien de mètres carrés en tout, Elisabeth, chez vous?
117 ou 118 mètres carrés, quelque chose comme ça.
Ah, c'est grand.
C'est grand pour une personne toute seule, c'est grand. C'est pour ça que je meuble avec Giovanna. On se laisse une liberté toutes les deux. Je ne suis pas toujours sur son dos, elle ne vient pas me harceler sans arrêt. Non, il y a quand même une certaine liberté entre nous. À partir du moment où il y a la confiance, c'est naturel. Moi, je trouve que c'est naturel.
On n'est pas tout à fait quelqu'un de la famille, mais on se sent en famille. Vu de l'extérieur, ça peut donner un peu cette image grand-mère, petite fille, mais c'est pas du tout le cas. Hein.
C'est comme une copine alors?
Oui, peut-être. Disons que c'est le top de la colocation.
Puis je me sens utile. J'ouvre ma porte à quelqu'un que je dépanne de temps en temps. Et ça, si vous voulez qu'une personne âgée reste sur ses deux pieds et la tête bien dans sa tête, c'est la solution. Il faut l'occuper.
Formidable reportage signé Antoine Lee. Un mot sur cette association?
C'est l'association Ensemble Deux Générations. On fait le lien sur le site de Grand Bien Vous Fasse.
Commentaire, Serge Guérin, Pierre-Henri Tavoyau.
Oui, je pense que c'est un point très important parce que on a fait plusieurs enquêtes sur l'intergénérationnel, notamment en France. Et on a été un peu, justement, pour contrecarrer notre thèse, on était devant les expériences qui ne marchaient pas. Alors là, on a une formidable expérience qui marche, mais il faut être attentif aussi quand ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, c'est qu'on se contente de juxtaposer des générations. Et c'est vrai qu'il y a des habitats intergénérationnels qui ne fonctionnent pas parce que, par exemple, les jeunes trouvent que les vieux font trop de bruit. C'est ça, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça se passe parce que ils sont en train de bosser, le soir, la télé est à fond. Donc voilà, ça ne marche pas non plus quand on veut mettre, par exemple, une maison de retraite et une école maternelle. Et puis on dit, ouais, c'est une idée géniale, ils vont partager les repas ensemble. C'est juste une folie parce que c'est pas du tout le même. Il y a beaucoup de bruit. Dans un cas, le repas est perçu comme un moment de tranquillité. Dans l'autre cas, comme un moment de déversoir, si je puis dire. Là aussi, si on veut faire visite de musée ensemble avec une maison de retraite et une école primaire, ça ne marche pas parce que c'est pas le même rythme. Donc, ce qui est très intéressant et ce que montre très bien le reportage, c'est qu'il faut quelque chose de pensé. C'est une réciprocité qui est pensée avec effectivement cette idée de gagnant-gagnant que vous avez bien dit tout à l'heure, où effectivement, il faut que chacun trouve son compte et que le contrat, en quelque sorte, soit clair. Ce sont des adultes qui sont ensemble, qui vivent ensemble et qui s'apportent mutuellement des choses. Si on se contente de juxtaposer, c'est la fragmentation et c'est une catastrophe.
Serge Guérin, on l'a entendu dans le reportage d'Antoine Lee, le lien entre générations, c'est une arme solide pour lutter contre la solitude.
Oui, bien sûr. Et puis ce qu'on a vu dans ce reportage, c'est qu'il faut autour des médiateurs, des gens qui organisent. On a, à un moment donné, ça se fait pas nécessairement si naturellement que ça, donc il faut aussi qu'il y ait des gens qui organisent, qui accompagnent les personnes, et cette notion en effet de contrat. Et on voit bien que là, du coup, ben, en fin de compte, il y a une dynamique qui se met en place et que chacun s'y retrouve. Finalement, cette notion de réciprocité, c'est que, vous l'avez d'ailleurs très bien dit, on est gagnant-gagnant, on s'y retrouve chacun.
Antoine Lee.
Juste une précision d'ailleurs, chacune des personnes, que ce soit Elisabeth ou Giovanna, ont chacune passé un entretien de 2 heures avec un bénévole de l'association qui les a un petit peu interrogés sur leurs attentes et ce qu'ils ne souhaitaient pas avoir comme contrainte.
C'est très intéressant ce que vous dites, Antoine Lee, parce que quand on parle de lien intergénérationnel, il est important de dire qu'il s'agit de liens choisis, de liens pensés, ouais, de liens réciproques et non de solidarité mécanique.
Oui, parce que c'est là où les choses doivent être interprétées dans la longueur historique. Dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés communautaires, l'intergénérationnel, il est imposé. C'est-à-dire, on ne se pose pas la question, il faut aller voir la grande tante qui sent mauvais, même si on ne s'entend pas du tout avec elle. C'est comme ça, voilà. Alors, effectivement, on peut avoir la nostalgie de cette époque où les vieux n'étaient pas abandonnés, où les jeunes étaient accueillis, etc. Mais c'était une chaleur un peu étouffante de la communauté. On n'avait pas le choix. Alors, ce qui est extraordinaire, si je puis dire, c'est pour ça qu'on peut être vraiment optimiste avec notre société réputée individualiste, marchandisée, consumériste, justement, elle reconstruit du lien. Simplement, ce lien, il est pensé, il est conçu. Du coup, il est fragile aussi. Il faut faire très, très attention. Il doit être étayé quand il fonctionne pas. Mais il est pensé et donc il est, disons, son lieu naturel, c'est la liberté individuelle, c'est le choix, c'est les affinités électives. Quand c'est là, c'est formidable. Quand c'est pas là, effectivement, c'est grave. Et là, il faut donner un petit coup de main.
Et vous écrivez quelque chose de fort dans votre ouvrage. Le lien intergénérationnel est l'ultime manière de nous rendre sensibles l'idée d'éternité dans un monde marchand et désenchanté.
Oui, parce que on dit il y a une crise de la transmission, en effet, bien sûr, mais justement ce qui est le plus fascinant, c'est que tout le monde regrette cette crise de la transmission. Moi, ce qui me rend optimiste, c'est que les gens soient pessimistes, c'est-à-dire qu'ils soient attentifs à des choses vraiment importantes, qu'ils cherchent à défendre de toutes leurs forces la transmission, le lien avec les autres. Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Une vie réussie, c'est une vie qui a la qualité des liens. Et le lien intergénérationnel, c'est le lien le plus spontané, le plus naturel de l'individu.
Allez, n'hésitez pas à nous donner des exemples de solidarité entre les générations au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com.
Ali Rebéi sur France Inter.
Ça fait du bien, Whatever d'Oasis à 10h41.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Et nos invités Serge Guérin et Pierre-Henri Tavoyot nous expliquent avec force ce matin pourquoi la guerre des générations n'aura pas lieu. Bonjour Xavier, vous appelez de Sèvres.
Oui. Bonjour, oui, je voulais simplement faire rendre un petit hommage à les jeunes du conseil communal des jeunes à faire qui a organisé il y a très peu de temps un cours d'informatique pour les anciens. Et j'ai fait partie de la première promotion. Et je peux vous dire que j'ai admiré vraiment le travail de Bruno et quelques autres de ses copains.
Comment ça se passait?
Eh ben écoutez, on s'est retrouvé dans une salle à quelques vétérans, et puis les jeunes nous ont fait remplir un petit questionnaire, et puis ils nous ont demandé à quel niveau nous en étions, parce qu'on avait quand même tous quelques petites notions, vous voyez. Mais moi j'ai admiré la gentillesse et aussi l'écoute et aussi la patience de ces jeunes vis-à-vis de nos questions et tout ça. Et ils ont répondu de manière très très sympa et efficace. En plus, je suis même sur Facebook maintenant, vous vous rendez compte.
Pas moi.
mais en plus, moi je peux vous dire que j'attends avec impatience le prochain cours, parce que nous avons, paraît-il, d'autres sessions en vue. Voilà. Et je voulais simplement remercier toute l'équipe. Voilà.
Serge Guérin.
Ben c'est génial, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est loin d'une guerre de génération, on est bien dans de la coopération. Cette personne vient vers des jeunes qui vont lui expliquer un certain nombre de choses, et peut-être qu'à d'autres moments, c'est cette personne qui expliquera des choses à des jeunes. Ce qu'on a voulu aussi montrer dans ce Tour de France, dans les exemples qu'on a pris, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent. Le Conseil municipal des jeunes de Sèvres, Conseil municipal des jeunes qui va vers les plus anciens. Ces jeunes filles qui n'ont pas 20 ans, qui ont monté en voiture Simone, et qui font le Tour de France pour aller montrer là où ça se passe bien. C'est Lire et faire lire, où aujourd'hui, il y a 18 000 bénévoles qui vont autour de la lecture avec des enfants. Il y a partout en France, dans le moindre petit village comme dans les grandes villes, il se passe des choses positives, et finalement c'est la société du bas qui bouge et qui a envie, parce que derrière c'est juste un plaisir, c'est juste une envie, c'est juste un besoin, et ça répond aux uns et aux autres, et donc chacun se construit et même construit aussi son regard, construit aussi son propre projet, et c'est la notion de transmission aussi qu'il y a derrière. On voit bien que là ce sont les jeunes qui transmettent aux plus âgés, et à un autre moment c'est les plus âgés qui transmettront aux jeunes.
Merci beaucoup Xavier de nous avoir appelé de Sèvres. Alors Serge Guérin, Pierre-Henri Tavoyau, parfois des catastrophes peuvent susciter de belles initiatives. Je pense notamment à la canicule de l'été 2003 avec un bilan très lourd, près de 15 000 victimes comptabilisées entre le 1er et le 20 août 2003. Alors de façon peut-être hâtive, nous sommes nombreux à y avoir vu un abandon de nos plus âgés, le signe éclatant d'un déclin irrémédiable du lien entre les générations. Et pourtant c'est un peu plus complexe que ça, Serge Guérin.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est d'abord un traumatisme.
Total, bien sûr.
En temps de paix, sur une période aussi courte, autant de morts, évidemment, heureusement, on l'a pas connu tous les jours. 15 000 morts. Un ministre qui a été démissionné, c'était le ministre de la Santé. On imagine que si ça avait été 15 000 étudiants, c'est pas un ministre qui aurait été démissionné. Donc on voit aussi les représentations. Mais derrière ça, en même temps, il y a eu un soulèvement, d'une certaine manière. Beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de rapports et tout ça. Mais l'air de rien, des politiques publiques qui ont changé, des gens qui se sont dit, mais c'est pas possible. Et donc aussi une prise de conscience. Et puis, c'est dans certains endroits où ces personnes-là ont décédé, mais dans d'autres, au contraire, on les a accompagnés. Et aujourd'hui, la société s'est beaucoup plus mobilisée. Donc on voit bien de quelque chose qui pourrait être le signe d'un individualisme a été aussi le signe d'une capacité de la société à se régénérer. Donc si on a un regard positif, on voit bien qu'on est capable aussi de bouger. Et aujourd'hui, les épisodes caniculaires n'entraînent pas la même chose. Donc ça montre aussi qu'on est capable de bouger.
Pierre-Henri Tavoyau.
Oui, ce sont par exemple des associations de commerçants qui l'été disent, bon bah nous on reste ouvert, vos grands-parents viennent nous voir, et bien on est attentif, juste ça. Et surtout ça a duré, c'est depuis la canicule, ça reste stable. Mais il y a eu d'autres phénomènes. Alors dans le monde de l'entreprise, par exemple au moment des grandes tempêtes qui ont coupé le service d'électricité dans une bonne partie de la France, et bien spontanément tous les anciens, les retraités d'EDF se sont présentés au boulot pour dire, vous avez sans doute besoin de nous, on va filer un coup de main. Voilà, typiquement ce genre de choses, dans les situations un peu tendues, il y a cette solidarité qui se manifeste.
Alors qu'est-ce qui motive la solidarité entre générations? Selon un sondage Ipsos Notre Temps en septembre 2015, pour 58% des personnes interrogées, les différentes générations ont beaucoup à apprendre les unes des autres.
Je crois que on revient toujours à cet élément-là, cette notion de transmission. Je peux pas construire mon avenir si je ne sais pas d'où je viens. Et donc, j'ai besoin, dans cette période un peu compliquée où les gens se posent des grandes questions identitaires et tout ça, à un moment donné, il y a quelque chose de plus fort que ça, quoi. C'est la confiance, c'est la conscience, c'est plus fort que l'appartenance, pour reprendre une formule d'Adèle Malik autour de Camus. C'est ça qui est fort. C'est cette notion, au-delà de l'appartenance, c'est quelle est ma conscience, et donc quelle est ma conscience de vivre avec les autres et d'où je viens. Et si j'ai pas les gens les plus âgés, je ne sais pas d'où je viens.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que certaines enquêtes de fond montrent qu'une forte majorité de Français estiment quand même que les relations entre les générations sont moins fortes qu'il y a 20 ans. Et je pense à une enquête IRCANTEX-Sofres en 2013.
Alors ça, vous avez sur tous les sujets aujourd'hui, c'était toujours mieux avant. Toujours, toujours, parce que société en crise, société aussi qui valorise l'avant, donc la nostalgie est vraiment ce qu'elle était, quoi, d'une certaine manière. Donc c'est très important. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens disent c'était mieux avant, mais qu'est-ce que c'est bien aujourd'hui ? Et donc, d'une certaine manière, combien il faut le développer, combien il faut le soutenir, combien il faut le coucouner, combien il faut le valoriser. Donc oui, comme pour tous les sujets, c'était mieux avant, sauf qu'aujourd'hui, ça, au moins, ça existe encore, et ça veut dire aussi combien c'est important à développer demain.
Bonjour Erwan.
Bonjour.
D'où appelez-vous ? D'où appelez-vous ?
De la Serre, Haute-Garonne.
Ah ben bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Alors vous viviez chez votre grand-mère ?
C'est ça. Donc déjà merci d'avoir pris mon appel à l'IRIBI et merci pour cette émission qui égaye les bouchons tous les matins.
Merci.
Et donc oui, j'habite chez ma grand-mère avec mes deux frères. C'est ça qui est particulier. Mm-hmm. C'est un concours de circonstances qui nous a amenés tous les trois à revenir habiter chez notre grand-mère.
Et comment ça se passe, comment ça se passe ?
Alors, vous parliez plus précédemment d'un apport mutuel, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On apprend mutuellement. Je sais que c'est elle qui nous a fait écouter en premier France Inter, c'est grâce à elle que je vous ai découvert. et surtout, elle nous a appris à ralentir le rythme. Et vu le rythme effréné dans lequel on s'était tous embarqués, début de la vie active, arrêt des études, le fait de revenir aux sources, revenir à un rythme plus calme, des repas réguliers, de prendre son temps, pas forcément sortir tous les soirs. Et un détail en particulier, c'est de faire son lit. C'est avant, je rigolais quand je les voyais, elle faisait le lit tous les matins. Je me demandais pourquoi elle perdait son temps à faire ça. Je trouvais ça aberrant. Et je me suis rendu compte que ça faisait partie des petits détails du quotidien qui sont importants.
Et votre témoignage me parle, Erwan, parce que moi, j'allais à l'école en face de chez ma grand-mère, donc je la voyais tous les jours. Et donc, ça me parle assez ce que vous racontez, cher Erwan. Serge Guérin.
Bah, c'est génial. C'est-à-dire que là, on voit bien aussi cette confrontation, le fait que chacun apporte quelque chose, que chacun est utile à l'autre et qu'on a aussi dans le regard de l'autre quelque chose à apprendre. Donc et reprendre aussi des petits symboles. Bah oui, l'histoire de faire son lit, on l'a souvent appris au service militaire, il n'y a plus de service militaire. Comment on l'apprend ? Puis de se dire, j'ai aussi besoin de temps en temps de me poser. Une société qui va trop vite, elle va dans le mur d'une certaine manière. On a aussi besoin de réfléchir à certains moments, on a aussi besoin de se poser. Et reprendre le temps long, c'est aussi reprendre le temps tout court.
Merci beaucoup Erwan de nous avoir appelé de la Serre en Haute-Garonne. La sphère familiale, ça reste le lieu de la solidarité entre générations, Pierre-Henri Tawayo ?
Alors oui, c'est aussi le lieu du conflit. Là aussi, il ne faut pas avoir une vision trop idyllique, parce que c'est ça en fait. Finalement, le schéma de la guerre des générations vient d'un moment de la vie. C'est le moment où quand on sort de l'enfance et on doit grandir. Et pour grandir, il faut inévitablement que l'on trouve que ses parents sont des vieux cons. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est nécessaire. Il faut même aujourd'hui un peu faire en sorte que les parents.
Bon, on ne conserve pas cette idée toute sa vie.
Non, voilà, accepte d'être de vieux cons. Il faut vraiment pour que nos enfants grandissent, aimons-les suffisamment, et pour cela devenons des vieux cons. Donc c'est un moment, et justement le schéma de la guerre des générations vient d'une sorte de généralisation de ce petit moment qui représente l'adolescence. C'est un peu l'adolescence de la société, voilà. Mais donc dans la famille effectivement ça existe, mais une fois qu'on s'est bien engueulé avec ses parents, il est temps de se réconcilier avec eux, et donc la solidarité se remet en place.
Financière notamment, Serge Guérin. Et pas que,
absolument, matériel au sens large du terme, et spirituel aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans une société de crise, dans une société en difficulté, le « famille, je vous aide » de Gide qui avait été repris en 68, il disparaît complètement, parce qu'au contraire, c'est « famille, je vous aime, famille, je vous choisis ». C'est pas nécessairement toute la famille que je prends, et c'est pas toute la famille qui m'aide, mais en tout cas, ça se passe comme ça. Et donc, financièrement, mais parfois matériellement, mais parfois en termes de logement, mais parfois en termes simplement d'écoute, il y a certains moments où j'ai besoin de ma famille, et à tous les âges. Je peux avoir 50 ans, avoir besoin de ma famille, des plus jeunes comme des plus âgés. Je peux revenir chez des parents qui ont 70 ans. Et à l'inverse, je peux accueillir mes parents qui ont 70 ans. Donc on voit bien que dans un moment très particulier, où il y a une solidarité forte aussi dans la collectivité, n'empêche que la solidarité familiale, elle reprend ses droits et elle est centrale. C'est un peu une ceinture de sécurité sociale.
Allez, nous attendons vos témoignages au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. Tickling my fancy gives out just the right amount of soul.
I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Seen a bunch of times before. An inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved her, but we had to let her go.
Alexandra Savior interprétée Mirage.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h53 et nos invités Serge Guérin et Pierre-Henri Tavoyot nous expliquent ce matin pourquoi la guerre des générations n'aura pas lieu. Bonjour Barthélémy.
Bonjour.
Vous appelez de Paris dans le 12e arrondissement. Alors vous y croyez-vous à cette guerre des générations ?
Non, parce que justement je pense qu'il y a de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui arrivent à la retraite et qu'il est urgent en gros de réussir à recréer du lien entre les générations. C'est pour ça qu'on a, nous, cofondé une association qui s'appelle l'Étalon d'Alphonse.
Alors c'est quoi ?
C'est une association qui permet de reconnecter les générations grâce à la transmission d'un savoir ou d'une passion. Et donc on propose à des retraités de transmettre leur savoir en couture, en tricot, en musique, en photographie, dans plusieurs domaines, à des plus jeunes.
Qu'est-ce qui vous a poussé à créer à cofonder cette association l'Étalon d'Alphonse ?
Alors nous, on a récemment terminé nos études et on travaillait en Afrique, au Mexique et aux Philippines avec Thibaut. Et en fait, on s'est aperçu que là-bas, il y avait des liens intergénérationnels culturels qui étaient très présents, très forts, qu'on n'a plus du tout en France. Moi, ma grand-mère, elle vit à l'autre bout de la France, à Perpignan, je la vois une fois par an. Et voilà, on pense que ça sera pas forcément avec sa grand-mère qu'on aura des liens intergénérationnels, mais peut-être avec d'autres retraités de son quartier.
Serge Guérin.
C'est les talents d'Alphonse, c'est une idée géniale, ça fait partie de toute cette floraison comme ça d'idées qui sont super, qui simplement sont des jeunes ou des moins jeunes qui ont l'envie, c'est-à-dire qui ont le besoin de se dire on a besoin de liens, on a besoin d'apprendre de ces personnes ont besoin de nous apprendre aussi des choses, et donc on recrée du lien social. Et ce qui est génial, c'est que d'une manière, Barthélémy dit il y en a pas assez, mais en même temps on voit qu'il y en a et il en crée d'autres, et c'est ça qui est super. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique comme ça générale et que ça répond à un besoin de tout le monde.
Et nous mettrons les liens de votre site les talents d'Alphonse sur notre site internet et sur notre page Facebook. Merci beaucoup Barthélémy de nous avoir appelé. Alors nous avons vu tout au long de l'émission que les Français restent quand même attachés aux liens intergénérationnels. Plus facile à dire qu'à faire. Vous écrivez avec justesse que nos sociétés hypermodernes adorent la mixité comme réalité, mais la détestent souvent en réalité, Pierre-Henri Tavoyot.
Oui,
il y a encore du travail à faire.
Oui, il y a du travail à faire. C'est là où il faut bien comprendre le ressort. C'est-à-dire que on est dans des sociétés individualistes, c'est clair. C'est l'individu et la valeur suprême, la valeur cardinale. Est-ce que cet individualisme est forcément un égoïsme ? Alors c'est là où ça se complique un peu, parce que on peut dire pour être un individu, il faut savoir pouvoir se fabriquer, et pour pouvoir se fabriquer, on a besoin des autres. C'est-à-dire on a besoin des parents, et aussi on a besoin d'avoir envie de se fabriquer, c'est-à-dire envie de se fabriquer pour les autres. Donc l'individu n'est pas le contraire de l'altruisme. l'altruisme, mais c'est a besoin de l'altruisme pour se construire. Donc c'est vraiment ça l'idée centrale. Arrêtons de dire que nos sociétés individualistes sont des sociétés qui veulent rompre le lien. Au contraire, on est en quête frénétique de lien.
Êtes-vous favorable à un service civique spécifique pour renforcer les relations intergénérationnelles qui concernerait à la fois les jeunes et les plus âgés, Serge Guérin?
Dans le bouquin, à la fin, on fait un certain nombre de propositions pour être extrêmement concret. On aurait rêvé que les candidats à la présidentielle s'en saisissent et en discutent, mais bon, on rêve. Et dans ces éléments-là, il y a cette notion de service civique. On se dit, c'est en effet hyper important. Et dans ce service civique, l'enjeu aussi, c'est que les retraités puissent être mobilisés pour accompagner ces jeunes en service civique. Parce qu'il ne s'agit pas juste de mettre les jeunes en service civique. Encore faut-il qu'ils apprennent des choses, qu'ils soient accompagnés, et ainsi de suite. Il peut y avoir des salariés qui peuvent le faire, bien sûr. Mais on a aussi ces 15 millions de retraités dont des millions et des millions seraient prêts, tout à fait intéressés, à se mobiliser en étant eux-mêmes accompagnés. Et donc là, on pourrait inventer quelque chose qui crée une alliance entre les âges extrêmement forte et qui apprenne aux uns et aux autres non seulement à vivre ensemble, mais aussi à apprendre des choses, à être mieux préparés dans la société et autres. Donc oui, on est hyper favorable et on dit que c'est même un des enjeux majeurs pour l'avenir.
À quoi ressemblerait le nouveau pacte intergénérationnel que vous appelez de vos voeux?
Déjà, le point essentiel, c'est qu'on a l'habitude aujourd'hui en politique de traiter par cases. Donc il y a une politique de l'enfance, de la petite enfance, une politique de la jeunesse, une politique de la vieillesse, de la grande vieillesse, etc. On oublie souvent du même coup que, en fait, c'est une seule et même vie qui est concernée par ça. Et c'est vrai qu'à chaque âge, il faut changer de bureau, ouvrir une nouvelle porte, remplir un nouvel formulaire. Donc le point est assez simple, c'est de se dire, essayons politiquement de penser la vie de A à Z, c'est-à-dire une véritable politique des âges de la vie, avec en prenant en compte les bouleversements de la vie contemporaine.
Serge Guérin, vous appelez à la création d'un ministère des âges de la vie et des générations.
Oui, c'est pour aller dans ce sens-là. Il y a un ministère de la jeunesse d'un côté, il y a un secrétariat d'État aux vieux de l'autre. Ministère de la jeunesse est associé au sport, secrétariat d'État aux vieux est associé à la santé. C'est quand même hyper représentatif. Donc on nous dit qu'il faut un ministère de l'ensemble des âges et de l'intergénération dans une société de la longévité.
Alors, pour conclure, vous rappelez une évidence dans votre ouvrage. La guerre entre générations n'aura pas lieu car personne n'aime se battre contre lui-même. Nous n'assisterons donc pas à une chasse aux vieux comme dans la nouvelle de Dino Buzzati.
Sinon, ça s'appelle le suicide.
Merci beaucoup Pierre-Henri Tavoyot et Serge Guérin. Je recommande vraiment La guerre des générations aura-t-elle lieu chez Stock.
Merci Calman Lévy.
Ah, chez Calman Lévy, pardonnez-moi. C'est bien. Voilà.
C'est l'âge, voilà, c'est ça.
Et demain, nous recevons le philosophe et maître de méditation Fabrice Midal, qui nous invite à nous foutre la paix, cesser de vouloir être parfait, de vouloir tout contrôler, de se comparer. Et vous, quelle est votre méthode pour vous foutre la paix? Grand bien vous fasse à radiofrance.com. À la technique ce matin, Ronan Mahé et Maxime Ingrand. La programmation musicale était signée Muriel Pérez.